Marcel Nadeau et Maurice Pelletier, un drame paysan, un déraciné. L'opinion publique vosgienne avait commencé à oublier l'affaire Adam, vieille déjà de quelque 15 ans, qu'un autre drame, encore plus sombre, allait en 1905 la bouleverser à nouveau. C'est qu'il ne s'agissait plus d'un meurtre banal, c'était d'un parricide, cette fois que la cour d'assises d'Épinal devait avoir à connaître. À quelques kilomètres au nord de Gérardmer, la bourgade de Granges groupe ses maisons basses au toit brun entre le double serpent de la route et de la voie ferrée. Des filatures, des tissages, des carrières de granit donnent à ce pittoresque ravin une animation grave et ordonnée. Or, quelques 12 ans auparavant, un brave paysan du nom de Nicolas Petit-Demange avait transporté ses pénates de la coquette capitale du tourisme vosgien à Granges-sur-Vologne. Oh, ça n'avait pas été sans mal. Le père Petit-Demange était attaché à sa maisonnette et au bout du pré qui la jouxtait de toute la vigueur de son âme paysanne, mais Madame Petit-Demange, née Cristal, y tenait tant. C'est qu'elle y retrouvait sa famille d'honorables commerçants du lieu. Malgré le peu de distance qui séparait Granges de Gérardmer, elle y était toute dépaysée et le sombre miroir du lac ne lui faisait pas oublier l'ombre qui tombe du Spiremont. Tant il y a qu'elle n'eut point de cesse que son mari ne vendit terre et maison pour aller se fixer dans le village natal de sa femme. Avec quel mal le père Petit-Demange avait fini par consentir à quitter son bien. Mais comment refuser ce que femme veut? Il avait donc fini par acquiescer, et moyennant 5 000 francs, une fois versés, à céder son toit et son pré pour acquérir au même prix et à de bonnes conditions une maison à un étage et au bout de prairie à l'extrémité du défilé de Granges au Fayard. Mais pour un vieillard, Nicolas avait à ce moment-là 60 ans bien sonnés, quitter les murs et les arbres qui furent les témoins d'une existence laborieuse, c'est un coup dont on se remet difficilement. Ou la blessure se fait définitive et mortelle, c'est à l'annonce de la création d'une ligne de chemin de fer dont la gare sera en partie édifiée sur l'emplacement de la petite maison vendue naguère à bas prix. Ce qui a été cédé, oh, il y a peu de temps, pour 5 000 francs, l'heureux acquéreur vient de s'en faire le marchand pour 50 000 francs. 50 000 francs en 1905, mais la fortune! Le père de Midemange ne se console pas d'avoir passé à côté de la fortune. Sa tête n'était pas déjà bien solide, elle se trouble tout à fait. La neurasthénie dont il souffrait depuis son départ de Gérardmer se mue en demi-folie. Et les crises d'une épilepsie vraisemblablement larvée éclatent, qui se traduisent par de fugues de plus en plus fréquentes et l'idée fixe de la persécution. Malgré une surveillance incessante qu'avec subtilité de fou, il trouvait moyen de déjouer, le père Petit-Demange filait par les routes, les prés ou les sentes, fuyant son dernier asile sous le fouet de la nostalgie. C'était toujours dans la direction de Gérardmer que l'entraînait son obsession. Il coupait à travers champs, traversait la Vologne sur le rustique pont de bois qui le menait vers la route départementale. Hé, mère, petite démange! Bonjour, monsieur Colin, qu'y a-t-il à votre service? Je viens de rencontrer votre mari. Bon, encore filé. Merci, monsieur Colin. Elle ne demandait pas même où le retrouver, elle ne se le fait trop bien. Elle ou son fils filaient vers la route et rattrapaient le fugitif, qui se laissait ramener par le bras comme un enfant égaré. Et qu'était-il donc d'autre qu'un enfant, qu'un vieil enfant? En mai, ne s'était-il pas enfin enfui armé d'une canne et d'une brique, comme pour reconstruire sa maison vendue au bord du lac, le beau triste lac aux eaux sombres. n'était pas allé bien loin. Sa femme l'avait une fois le plus rejoint et, sans violence, avec des mots paisibles, lui avait fait réintégrer la petite maison du Fayard, au crépuscule de la fête Dieu. Le jour tardait à tomber ce 25 juin, comme si la paix de la fête Dieu eût voulu se prolonger pour la joie tranquille des habitants de la bourgade. Les broches des filatures et les métiers du tissage avaient arrêté leur cliquetis inlassé, et des hauteurs, coiffées de sapinières, un immense repos s'était abattu sur la vallée de la Vologne, trêve de la fatigue quotidienne. De lentes fumées montaient des toits bas vers l'azur agonisant du crépuscule. Et sur le pas des portes, les commères échangeaient des propos prudents, coupés de longs silences, en attendant le retour de leurs hommes pour le repas du soir. Ce rite des fêtes carillonnées, la maison Petit-Demange l'observait scrupuleusement. Nicolas, le fils, venait de rentrer. Son après-midi avait été consacré à une longue et âpre partie de quilles avec les gens de la manufacture. « Il nous faudrait un peu de bois pour les échelles, » lui avait dit à son retour la mère. « Bien, ben, je vais aller en quérir à la sapinière. Et papa ?»« Oh, ton père, il s'est promené toute la journée comme une âme en peine aux alentours de la maison. On va sonner quand tu rentreras. » « Oh, ben, j'ai faim, j'aime mieux souper tout de suite, après j'irai au bois. »« Eh ben, si tu veux, moi, ce temps-là, je donnerai à manger aux bêtes. » Le souper, bref et frugal, une fois achevé, chacun alla sa besogne ordinaire. Madame Petit-Demange fit sortir ce bétail, et devant la maison rencontra Madame Sida, sa locataire, qui allait à la scierie des échelines, où l'on travaillait d'arrache-pied, porter à son mari son repas. « Vous allez bientôt revenir, Madame Sida ?»« Oh oui, on pourra faire une causette avant d'aller dormir. » Les bestiaux menés au pré, et la mère Petit-Demange revint chez elle. « Hé, papa, tu te couches ?»« Oui, oui, bientôt. » Elle haussa les épaules, puis entra dans l'étable à ranger la litière des animaux. Quand il eut terminé cette besogne imprescriptible, que nul fait ne peut faire oublier, elle retrouva devant sa maisonnette Madame Sida, qui venait de rentrer. Les deux femmes s'assirent sur le seuil, goûtèrent le calme du crépuscule, interrompant de temps à autre par de rares propos le silence envahissant la vallée. « Votre Nicolas n'est pas encore rentré ? Oh, il tardera guère ! « Oh, il n'est pas au cabaret. Il est allé couper les pousses de sapin. »« Oh, c'est un garçon sérieux. Oui, il me donne bien du contentement. » La nuit commençait à tomber lorsque la mince et haute silhouette de l'adolescent, alourdie par son fait de branchage, se profila contre la barrière de l'enclos sur l'étroit sentier qui longeait la maison. « Tu arrives tard, fils !» « Ah, si je suis allé au profond, rapport aux gardes, j'en ai ma charge. »« Allez, rendre ça et va dormir. »« Bon, je peux bien me reposer un moment. Où est le père ?»« Ben, dans son lit. » Une demi-heure se passe encore. Le coucou de la salle se mit à chanter. « 10 heures, oh, il faut aller se coucher, Nicolas. C'est pas tous les jours fête. » « Et l'usine travaille demain, matin. »« T'as raison, maman, allons nous coucher. »« Bonsoir, Madame Sida, bonne nuit. »« Bonne nuit, Madame Célestine. » Et chacun rentra chez soi. Mais à peine Madame Petit-Demange était-elle dans sa chambre qu'elle ressortit précipitamment. « Nicolas, Nicolas !» Le jeune homme accourut. « Tu n'as pas vu le père? Il n'est pas chez toi ?»« Chez toi non plus? Mais où a-t-il bien pu aller ?» Devant la maison, dans le sentier qu'il aborde, personne. Peut-être sera-t-il allé sur la route. par les chemins, à une heure aussi tardive, oh, c'est peu probable. Encore moins dans la forêt. Papa, papa! Crie de toute la force de ses poumons le jeune Nicolas. Mais seul l'écho répond en traînant sur la dernière syllabe. Hé, le père, appelle à son tour Madame Petit-Mange. Pas plus de succès. La nuit étouffe les cris. Une demi-heure se passe en appels vains, en inutiles recherches. Bah, il est peut-être rentré, tandis que nous l'appelions. Mais la maison, quand il revint, était toujours vide. Bah, il a dû filer sur Gérard Mer. Oui, à moins qu'il n'ait piqué une crise dans quelque coin. Quand il sera remis, il rentrera. Mais à quelle heure? Vois-tu, maman, il n'y a qu'à l'attendre. Allez, tout de même, va te coucher, je veillerai bien toute seule. Oh non, pour sûr, je peux bien veiller avec toi. Les heures coulèrent de plus en plus lentes. Vers 3 heures, alors que le ciel s'éclaircissait sous les premières caresses de l'aube, Nicolas eut un frisson. L'heure se fait frais, tu vas prendre froid. Oh, ce n'est rien, maman, répondit le courageux enfant, ça va passer. Mais je commence à croire qu'il a dû arriver malheur à papa. Le silence, lourd d'appréhension, tomba sur la mère et le fils. Le jour se leva, Madame Petit-Demange entendit rentrer chez les Sida. Bien, je vais demander à la locataire de garder la maison, dit Madame Petit-Demange. Nous partirons à la recherche de papa. Bon, il vaudrait mieux que j'aille à Gérard Mer. Si le père y est, je pourrais le ramener. S'il n'y est pas, je le déclarerai à la gendarmerie. Tu en feras autant de ton côté à Grange, et ce serait toujours à temps de commencer la recherche après. C'était évidemment le parti le plus sage. Et vers 8 h 30, Nicolas arriva à Gérard Mer. Il fit sa déclaration au gendarme Petit-Jean, cependant que sa mère faisait la sienne à Grange au gendarme Cara. Mais nul n'avait vu le père Petit-Demange. Ni le soir, ni le lendemain, ni les jours suivants, le vieillard ne devait revenir frapper à la porte du Fayard. Deux victimes. Pendant 5 interminables journées, le père Petit-Demange demeura invisible. Et ce ne fut que le 1er juillet, à l'aurore, qu'on le retrouva, ou plutôt que l'on retrouva son cadavre. Ce matin-là, le 1er juillet, il était environ 4 heures, un faucheur du nom de Maurice se rendait au Pré Lobeau, longue prairie qui s'étend à 1 km du Fayard, entre la Vologne en contrebas et la route en surplomb. Une rigole, à moitié desséchée en été et qui sert à l'irrigation, traverse la lande de part en part. En remontant le long de la rigole jusqu'à l'herbe courte qu'il s'apprêtait à faucher, M. Maurice se heurta à une masse sombre à moitié enfoncée dans le caniveau. Il se penche, un cadavre. Avec précaution, il retourne le corps. C'est celui du disparu du 26, du père Petit-Demange. Sans s'arrêter davantage, il prend sa course, va prévenir les autorités de Grange qui télégraphient à Saint-Dié. À la fin de la matinée, le parquet était sur les lieux, sous la conduite de M. Tour, de juge d'instruction, et d'un médecin légiste, le docteur Rousselot, celui-là même qui avait opéré dans l'affaire Adam. Des premières constatations médico-légales, il résultait que le crâne, à sa partie postérieure, portait des traces de coups, mais que les muscles latéraux du cou montraient des marques de constriction. La victime aurait donc été assommée d'abord, étranglée ensuite. Pendant que le docteur Rousselot se livrait à l'étude de ses traumatismes, le parquet examinait les lieux. Il relevait sur 150 mètres des traces de pas qui remontaient le cours de la Vologne jusqu'à un pré appartenant à la famille Petit-Demange et qui s'arrêtait à un endroit où l'herbe avait été foulée, écrasée, comme sous le poids d'un fardeau abandonné quelque temps sur place. Deux pièces à conviction, une seule. Un chapeau découvert sur le chemin bordant le Prélobeau par un cultivateur de Barbey-le-Roux du nom de Victor Lecomte. De témoins oculaires, néant. Les Sidas affirmaient que de leur logement, séparé de celui de Petit Demange par une simple cloison, ils n'avaient de toute la soirée du 25 et de toute la journée du 26 entendu aucun bruit suspect. De plus, que jusqu'à 10 heures du soir, exception faite d'une demi-heure entre 7h30 et 8h, les deux ménages étaient restés en étroite relation directe. La mort de Petit Demange ne restait donc des plus mystérieuses. Qu'il y eût un meurtre, on en pouvait douter. Mais de là à pouvoir accuser, en tout état de cause, l'entourage immédiat de la victime était hors de tout soupçon. On remena donc au Fayard le corps qui fut rendu à la famille. On procéda le 6 juillet à l'infixumation, puis la gendarmerie commença son enquête. Celle-ci paraissait devoir traîner longtemps lorsque, 6 semaines après la découverte du cadavre, environ le 15 août, deux habitants de Granges furent avertir M. Tourde qu'ils avaient de graves déclarations à lui faire. 3 témoins tardifs. Si nous n'avons pas parlé plus tôt, ajoutèrent-ils, c'est parce que nous craignions d'avoir des ennuis. Rapport qu'on n'aime jamais être mêlé à une affaire d'assassinat. Mais on est d'honnêtes gens, et on a sa conscience qui vous fait un devoir impérieux d'aider la justice. Et c'est ainsi que le juge d'instruction entendit le 20 août Jean-Baptiste V. de Granges et Marie-Eugène G. de Haut-Proron. Il faut croire que les révélations de V et de G furent sensationnelles, puisque M. Tourde n'attendit pas 24 heures pour faire arrêter Mme Petit-Demange et son fils Nicolas. 2 jours plus tard, un fermier des Halles de Granges, Charles L., vint apporter sa petite pierre à l'accusation. La religion du parquet était faite, il tenait les coupables. Que disaient ces 3 dispositions ? Jean-Baptiste V. raconta que le 25, vers 10h30 du soir, braconnant dans la Vologne, il avait aperçu, à peu de distance de l'endroit où fut trouvé le cadavre, une femme et un homme de haute taille remontant le sentier qui longe la rivière. Ayant peur d'être pris en flagrant délit, il s'enfuit. Charles L., lui, affirma que d'un bouquet d'arbres proche de la maison des Petits-Demanges, il avait vu les 2 accusés rentrer chez eux, porteurs d'une civière, et après avoir enlevé leurs sabots. Double contradiction déjà entre les 2 témoins. D'une part, L. a vu à 11h30 une civière, et V. à 10h30 n'en a pas vu. D'autre part, comment faire cadrer les heures ? De la maison des Petits-Demanges au Prélobeau, il n'y a pas 10 minutes de marche. Si l'on en croit elle, il aurait fallu aux accusés 1 heure pour en revenir. Il y a plus. La civière, à en croire elle, a été déposée le long du mur sud de la maison. Or, elle se trouvait du côté nord. Entre lui et les Petits-Demanges s'interposait la maison et la remise. Et sur le rapproche de ce fait des entretiens que V et G eurent avec elle, entre leur déposition et la sienne, on ne manquera pas d'éprouver quelques troubles. Mais quelque graves que soient ces manques de concordance, ils ne sont rien au prix de la déposition de G. C'est dans la nuit du 29 au 30 juin que, pêchant dans la Vologne en face de l'endroit où l'herbe fut trouvée foulée, il aurait aperçu, entre 00h et 01h, un homme et une femme venant de Fayard. L'homme aurait été porteur d'une civière. Il se serait arrêté, aurait ramassé un corps volumineux, on eût dit un veau mort, l'aurait mis sur la civière et jeté 200 mètres plus loin comme un tas de fumier. Puis j'aurais rejoint la route de Barbey-le-Roux aux Yvelines, serais revenu à la maison de Petit-Mange, aurais démonté le brancard et serais rentré. Cette fois, on ne comprend plus. V et P ont vu des éléments de fait semblables dans la nuit du 25 au 26, l'un à 10h30, l'autre à 11h30. Et c'est le 29, à minuit, que j'ai dit les avoir constatés. Mais quel besoin les criminels auraient-ils eu de déplacer le corps de 200 mètres 5 jours plus tard? Quelle nécessité de faire usage d'une rivière pour opérer un transport sur quelques pas? On nage dans l'invraisemblance. Mais le jury des Vosges n'en fut pas à cela près. Qui se ressemble? Ces témoins, qui étaient-ils donc? V, mort 2 ans plus tard en 1907, était titulaire de quelque 20 condamnations pour tentative d'assassinat, bris de clôture, délit de pêche et contrebande. G était doté d'un casier judiciaire avec 5 condamnations pour chantage, vol et recel de marchandises. Elle, condamnée pour violence et bris de clôture, était fou. Au moment des assises, on dut reconnaître qu'il tombait en enfance. Voilà une association de témoins que le code qualifierait, lui, d'association de malfaiteurs. Mais un autre élément entaché de suspicion, une dénonciation déjà douteuse par la qualité de ceux qui déposent. V, G et L étaient 3 ennemis de Petit de Mange. V avait été condamné pour braconnage sur la déposition du père Petit de Mange. Elle avait demandé à louer des terres au Petit de Mange. Ceci avait refusé, de là une haine avorçouée au procès par Mademoiselle Mathilde, elle, propre fille du témoin. Et G était en très mauvais terme avec le vieillard. Cela a été reconnu aux assises. Il importait peu. Aussi bien V, qui avait déclaré le jour des obsèques à une dame le comte, « Les petits demanches sont enfoncés. Je les enfoncerai davantage au besoin, j'écrirai des lettres anonymes au parquet. » Il se livra aux plus abjectes calomnies. Il accusa notamment du plus odieux crime d'immoralité la mère et le fils, se basant sur l'existence d'un seul lit dans la maison Petit Demange. Or, à la vente du mobilier, après condamnation, le notaire mit son enchère 3 lits. D'ailleurs, il se coupa par la suite. Le 29 août 1909, M. Augustin Rivaud, maire d'Aumont-Zey, rédigea le procès-verbal suivant. « Je sous-signé Augustin Rivaud, maire de la commune d'Aumont-Zey, déclare avoir entendu le sieur V, Jean-Baptiste Dippé, au café Hans, déclarer avoir fait un faux témoignage à la cour d'assises d'Épinal sur l'affaire Petit de Mange du Fayard. Tout comme dans l'affaire Adam, ce fut, semble-t-il, sur des témoignages de moralité que s'appuya l'accusation. Un certain Henri B, notamment, vint affirmer que le jeune Nicolas brutalisait son père. Et comme je l'ai jadis passé en correctionnel, j'ai pensé que mon information ne vaudrait qu'appuyée par un autre témoin. Et je puis établir que M. Rémi Ferry, ancien conseiller d'arrondissement, a lui-même constaté des visus, ces actes de sauvagerie. Or, la gendarmerie de Corcieux, appelée à recueillir la déposition de M. Rémi Ferry, n'obtint de celui-ci que le démenti le plus formel. Et l'on omit de dire qu'entre B et le petit Chauvange régnait une vive animosité du fait que ceux-ci avaient refusé de prendre ce témoin comme locataire et, ultérieurement, de se faire ses complices dans une affaire de bois volé qui entraîna condamnation. Quoi qu'il en fût, malgré le caractère taré des témoins à charge et les dépositions élogieuses des témoins à décharge, tous gens honorables, la cour d'assises des Vosges, siégeant à Épinal, condamna le 9 décembre 1905 la veuve Petit de Mange à 2 ans de prison et son fils Nicolas à 10 ans de réclusion. Hélas, le sort ajouta son injustice à celle des hommes. Tandis que la veuve, deux fois torturée, purgeait sa condamnation à Rennes, son malheureux enfant mourait un an après, le 3 janvier 1907, à la prison de Melun. Entre-temps, il avait pu écrire au garde des Sceaux qui ouvrit une enquête. Le 5 août 1906, un premier dossier était constitué. À une démarche de M. Camille Krantz, député des Vosges, il fut répondu qu'en l'absence de tout fait nouveau, la requête en révision de la femme Petite-Morge avait été rejetée. Une pétition à la Chambre, répétée au Sénat et publiée à l'officiel du 15 février 1908, n'eut aucune suite. L'opinion vosgienne s'empara de l'affaire. Un fait nouveau, l'aveu de V enregistré par River, semble pouvoir servir de base à une révision. Il semble d'ailleurs que la protestation de Madame Petite-Mange reste pour le moment purement platonique. Une enquête en révision s'impose. Elle s'impose d'autant plus qu'âgée de 70 ans, impotente, l'unique survivante du drame ruiné par les frais de justice n'a plus d'asile que la charité d'amis compatissants. N'aura-t-elle pas, avant de mourir, la joie de se voir rendre l'honneur et de voir réhabiliter le pauvre enfant, mort de chagrin et de honte, dans la froide et triste cellule où l'avait confiné l'immonde et basse vengeance de trois misérables?